J'ai fait le petit décompte.
Pour qui il se prend, Romain? Il croit qu'on est où?
J'ai fait le petit décompte 3-2-1 parce que Manuel, il n'arrêtait pas de parler.
Il croit qu'on est chez Canal ou qui? C'est pas son problème, ce gars.
Ça va, les gars?
Bah, ça va.
Oui.
Et vous?
Oui. Alors, entre le dernier podcast et après avoir relu ta bio Twitter, et ouais, pas que, ben, je me suis dit que pour changer, on allait reparler de Bill Gates un petit peu quand même.
Bah oui, pourquoi pas. Voilà.
Tu penses que tu parles mieux de tech que Bill Gates?
Bah oui, sinon ce serait pas ma bio.
D'accord.
C'est fou de poser des questions comme ça.
Je l'adore, cette bio.
Mais évidemment. Mais en fait, il y a plein de gens qui croient que c'est une vanne. Et je pense sincèrement que je parle mieux de tech que Bill Gates. Bill Gates en fait très bien. Mais alors, faut quand même l'écouter en parler.
Bah pour moi, le moment le plus mémorable, c'est à la D-Conference, quand il y a Bill Gates et Steve Jobs sur la même scène.
Oui.
Bah, elle est mémorable, cette conférence, en même temps.
Bah là, ouais, sincèrement, si vous ne l'avez pas vu, allez dans Google, regardez, tout à fait récent de ce truc. L'effet de contraste est évident.
C'est quelqu'un de...
Bill Gates, on dirait un petit enfant qui a fait pipi dans sa culotte.
Non, et puis c'est un geek, quoi. C'est insupportable à entendre parler, c'est indigeste.
Bah vous allez voir que ce que j'ai lu confirme ça. C'est, parfois, ouais, je me suis dit, c'est quand même un peu un geek, mais ça avait l'air d'être des trucs qu'il appliquait et qu'il disait pas trop. Donc je me suis dit, bon, ça peut être un bon sujet d'essayer de décortiquer la bête et de voir si c'est vraiment un geek et comment et pourquoi est-ce qu'on ne pourra jamais le comparer ou comparer Steve Jobs avec Bill Gates, parce qu'il y a deux trajectoires complètement différentes.
Ouais.
Voilà. Et bah, fun fact, c'est que je me suis posé cette question en rentrant tout juste de Cupertino, après avoir été bien imbibé du savoir-faire d'Apple. Bah, effectivement, il y a quelques trucs où je me suis dit, pas tout à fait quand même, mais on va en parler en podcast. Voilà.
J'ai un tu préfères pour Léo.
Ah, je t'écoute.
Tu préfères?
Oui.
Être vivant, mais être Bill Gates.
Ou être mort. Ou d'un cancer du pancréas, mais être Steve Jobs.
Être Steve Jobs.
Quelle horreur.
Bah, je dirais être vivant quand même.
Ah ouais, pas moi.
Écoute, c'est peut-être ce qui fait que t'es vraiment une personne étrange, Manuel.
Ah, mais non, mais pas du tout. Tu te rends compte, t'es Bill Gates.
Oui.
Bah, c'est-à-dire que tu bouffes des burgers au fond de la forêt, enfermé dans une cabane, et ta seule compagnie, c'est les gardes du corps.
Oui, mais je vis vivant, pour le coup.
Ah ouais, mais alors, disons, paye ton existence.
Et depuis combien de temps? Parce que la première chose que j'avais noté, c'était qu'il avait démarré quand il avait 13 ans à bricoler des ordinateurs. Et du coup, la première chose qu'il disait, c'était qu'il fallait démarrer le plus tôt possible pour essayer de gagner un max de temps dans son apprentissage. Et quitte à parfois louper un peu des étapes, mais vaut mieux démarrer très tôt sans trop bien savoir faire que de démarrer plus tard. Ouais. Ça, c'était déjà un truc que je lis et je me dis, bon...
Tant et si bien qu'il en a fait un bouton de démarrer. Même, oh, pour, oh, éteindre, même, oui, pour éteindre le PC.
C'est vrai, il s'appelle démarrer. C'est vrai, c'est vrai.
Alors vraiment, t'es la seule personne au monde qui n'avait pas conscience de ça.
Mais, non, mais parce que le menu s'appelait démarrer. Bah, et oui, le bouton, ça s'appelait arrêt. Le bouton rouge, il y avait le arrêt en dessous.
Oui, mais enfin, t'appuies quand même sur démarrer pour éteindre.
C'est complètement con, mais j'ai jamais remarqué ça.
Enfin, moi, je me suis jamais remis de ce truc. Enfin, je pense qu'ils l'ont peut-être changé depuis.
C'est incroyable.
C'est possible
que t'aies jamais entendu ça.
Mais tu te rends compte, on t'attribue Windows, si t'es Bill Gates, Léo, on t'attribue Windows, le truc qui fait chier la planète entière, en fait.
Je suis giga riche.
Oui, c'est d'accord. Mais
enfin, putain, c'est fou de venant de la part de Léo d'entendre ça.
Bah, alors, qu'est-ce qui est fou? Que je veuille pas être mort?
Non,
que je préfère être un homme riche qu'être mort, c'est ça?
La première chose que tu dis, c'est je serai méga riche.
Bah, c'est la seule qualité que je vois chez lui.
Ah, d'accord. Ah, il n'y en a vraiment aucune autre. Putain, il va être compliqué, cet épisode.
Bien sûr que si, il y en a plein d'autres. Il a côtoyé Steve Jobs.
Ouais, je suis sûr qu'il s'en souvient.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com.
Bon, pour le citer, en démarrant jeune, cela ne te garantit pas le fait de réussir mieux que les autres, mais d'y consacrer plus de temps et du temps plus qualitatif que lorsque tu auras des obligations d'adulte. À cet âge-là, en plus, on est plus souvent immunisé quant au regard des autres et notre cerveau apprend et retient beaucoup plus vite. C'est ça qui m'a marqué.
Bah, ses obligations d'adulte récemment, apparemment, il a eu des problèmes avec.
Moi, j'allais dire, c'est un super conseil, mais il croit qu'il parle à qui, en fait, les gens qui lisent Bill Gates, ils ont 45 ans. Donc, qu'est-ce que tu vas dire à des gens de 45 ans? Bah, c'est démarre jeune, surtout. Hein. Moi, j'ai fait à 13 ans.
C'est pour ça qu'il y a Speakeasy, Léo. C'est pour ça qu'il y a Speakeasy. Non, mais je trouve que c'est un mais truc auquel je
dans
pense
fond,
pas.
C'est vrai.
Ben ouais, c'est, je me dis peut-être que c'est pour ça qu'aujourd'hui, enfin, en tout cas pour parler uniquement de ce qui me concerne, j'en ai pas grand chose à foutre du regard des autres, des gens que je connais pas et tout ça, parce qu'en fait j'ai démarré tellement tôt que c'est vrai que quand t'es jeune, ben, tu t'en fous, tu fais ton truc parce que ça te fait kiffer, que t'es chez toi, que tu penses pas
ouais,
trop.
Mais moi,
tu vois.
Ça m'énerve.
Ah ouais?
Attention, ça m'énerve. Je pense que l'enjeu dans ta vie, c'est de garder la liberté que tu crois avoir quand t'es petit,
okay.
Que tu n'as pas du tout. Parce que tu sais même pas te faire à bouffer, en fait. Hein.
Du coup, t'as la société. C'est...
Bah, c'est à tes parents, en premier lieu, en fait.
C'est vrai.
Mais de conserver cette impression de liberté et de la transformer en véritable liberté, c'est-à-dire garder cet état d'esprit en étant le plus autonome possible. C'est ça, l'enjeu. Et sur le fond, je suis d'accord avec lui, sur cette espèce d'innocence et de liberté que tu as quand tu es jeune. L'enjeu de ta vie, c'est de le garder le plus longtemps possible. Et si tu y repenses, est-ce que tu es véritablement libre? Est-ce que tu es capable de dire merde à un mec qui te dit qu'il a envie de faire ci ou de faire ça?
À un board, par exemple, quand ta boîte grossit,
par
etc.
Exemple, okay. Ou à un client, ouais. Est-ce que tu es capable de dire que tu peux te passer de lui s'il te demande ouais. de faire un truc que tu n'as pas envie de faire, etc., etc. Ce que fait un gosse.
Oui. T'es plus envie, mon copain en une seconde quoi,
ah bah,
avec un
en
gosse.
Une seconde et demie, et puis s'il a pas envie de faire un truc, il le fait pas.
C'est clair.
Sincèrement, c'est quasiment pire qu'un chat.
Pour moi, c'est juste un peu logique. J'ai l'impression que dans tous les cas, pour te lancer très tôt, ça veut dire qu'il faut que tu découvres ta passion très tôt. Et quand tu découvres ta passion, bah, tu te mets à fond dedans, parce que c'est ta passion par définition.
Mais tu remarques qu'on t'a pas donné, on t'a pas demandé ton avis.
Ouais,
parce
d'accord.
que ça concerne que les adultes.
Ah, d'accord. Mais il parle d'enfants de 13 ans quand même. Donc ça marche pas.
Bah toi, tu dis quand même merde à tout le monde.
Bah non, mais pour moi, c'est logique. C'est, en fait, son conseil, il marche si à 13 ans, t'as déjà trouvé ce que tu voulais faire. Ce qui n'est pas forcément le cas de tout le monde.
En fait, je trouve que.
Mais je crois que dans sa tête, il imagine pas.
que tu puisses pas.
T'as 13 ans ? Bah tu sais. Il est où ton business plan ? Vas-y, on voit le BP là.
Mais je pense que la question, elle est là, les gars. C'est que quand t'as 13 ans, tu ne peux pas imaginer que ta passion puisse devenir un métier. Parce que. Aussi, je trouve que dans la plupart des cas, de ce que j'ai pu remarquer, l'entourage va à l'encontre de ça. C'est ton hobby, tu fais ça le week-end, tu fais ça le soir, mais attention, est-ce que tu as des bonnes notes à l'école? Attention, est-ce que ton carnet, il est bon? Ah, mais combien il y a de moyens dans la classe? Est-ce que tu es meilleur que la classe? C'est ça qui compte pour ton entourage. Donc, tu peux pas envisager une fois que ce que tu fasses le soir ou pour t'amuser puisse devenir un métier. Et je trouve qu'elle est là, la ligne, c'est que parfois, les gens prennent pas le temps de s'observer assez pour se dire « Eh, mais en fait, ça, ça m'intéresse, mais si ça m'intéresse au point de le faire vraiment tous les jours, est-ce que ça pourrait être un business model à un moment, en fait, parfois, tu te poses même pas cette question-là parce que tu considères ça comme un hobby. Et puis, c'est tout.
Bah ouais, mais j'ai tendance à penser que c'est ça la vraie passion. Si tu t'intéresses à un truc en te disant tout de suite, faut que je trouve un business model, il faut que j'imagine comment ça va pouvoir être rentable, pour moi, c'est pas une passion.
Non, mais si tu veux le faire à fond et du coup arrêter, par exemple, tes études ou faire des études en parallèle, mais de quelque chose où tu sais très bien que tu vas mettre de côté tes études, etc., faut quand même à un moment que ça devienne.
Bah oui,
rentable dans ta tête.
C'est ce qu'on a fait tous les deux
ouais.
à un moment où c'était pas du tout un business.
Ouais, mais c'est quand
mais
t'as voulu.
Devenu un quand même.
Oui, mais on a tout fait pour le transformer en business. C'est à ce moment-là où on s'est dit, bah tiens, on peut prendre le risque de ne rien faire d'autre à côté, quoi.
Mais ça, c'est bien plus tard.
Moi, j'ai encore son business plan de l'époque. Hein.
Moi, j'ai
business
j'ai...
plan de points, des sous.
Ça tombe très bien parce que j'ai commencé quand j'avais 13 ans. J'ai mis des années avant de me dire, parce que ça n'existait
ouais,
pas, que
vrai.
Ça pouvait être un business. Je le faisais par passion. Donc. Je suis pas sûr que tu dois vraiment commencer aussitôt à te dire « Il me faut un business plan, etc. » Pour moi, ça me paraît un peu lunaire.
Maintenant, et si on fait des études, Bill Gates nous dit que quel que soit votre niveau d'études, vous devez avoir de l'expérience pour gravir les échelons. Vous ne serez pas nommé PDG d'une multinationale simplement parce que vous aurez un beau diplôme en gestion d'entreprise. C'est un poste que vous devez gagner, soit en créant votre propre entreprise et en travaillant dur pour la hisser au sommet, soit en gravissant les échelons au sein d'une entreprise et en faisant vos preuves. En gros, bah, tu feras pas 60 000 euros la première année en sortant d'école, quoi. Ça, il avait envie de la mettre dans la tête des gens.
De plus en plus vrai, d'ailleurs.
Ouais, je pense aussi. Et pourtant, la génération qui précède avait ce sentiment-là. Plus tu fais d'études, plus tu sors et ça y est, d'un coup, t'es cadre et puis tu mérites tout l'or du monde, quoi.
Ah, maintenant, tu fais plein d'études et à la fin, il y a une intelligence artificielle qui fait tout à ta place.
Parce que c'est le mythe de la classe moyenne. Et en fait, je pense qu'il est en train d'arriver au marché de l'emploi exactement la même chose qui se passe dans des tonnes d'autres industries. Prenons la mode par hasard.
Ouais. Vraiment par hasard.
Et ben en fait, les seuls segments qui survivent, c'est les extrémités de la gamme. Donc c'est ou le mass market en fast fashion tout pourri, pas cher mais volumineux, donc ça c'est le mass market, ou le high-end de luxe, mais au milieu, c'est hyper dur, c'est très très dur de survivre. Ben, en fait, les diplômes qui te positionnent milieu de gamme, c'est pas terrible. Par contre, si t'as fait Polytechnique, Centrale, ou l'INSEAD, t'as zéro problème. Hein. Tout va bien se passer pour toi. Hein. Pour citer que des écoles françaises. Hein, t'auras pas de problème. Tu vas arriver aux responsabilités assez vite. Par contre, tout ce qui est au milieu, objectivement, t'aurais pas de diplôme, on s'en fout complètement. Moi, j'ai recruté quand même beaucoup de gens dans ma vie, j'en ai jamais rien eu à foutre de leur diplôme. Les seuls diplômes que j'ai regardés, c'est ceux qui avaient fait des grandes écoles, des très grandes écoles.
Oui. Parce que sinon, le reste n'est pas un gage de qualité.
Ça veut rien dire. Je m'en fous complètement. Après, c'est eux avec eux-mêmes et leurs parents sur le niveau d'endettement, c'est tout. C'est juste ça. Mais que t'aies fait... alors, je suis désolé, hein, ça ne va pas plaire à certains, hein, mais... Je vais pas citer d'école parce que sinon je vais m'attirer des ennuis. J'ai des copains qui dirigent les écoles, mais
on fera plus de conférences après.
Mais que t'aies fait l'école A, B, C ou D, ouais. Si t'es au milieu de la gamme, objectivement, on s'en cogne. D'ailleurs, tant et si bien que même dans ces écoles, on te dit, ce qui va compter, c'est ton parcours pédagogique, tes stages, et ce que tu fais toi proactivement en plus des études. Mmh. Et oui, c'est vraiment ça qui va compter.
Mais par exemple, quand tu dis école A, B, C ou D, tu penses à quelle école?
Je trouve que le plus dramatique, c'est justement quand les étudiants pensent savoir, en sortant d'école que tu peux imaginer modeste ou que tu considères modeste.
Oui, mais ça c'est valable dans la vie en général. Hein. C'est quand tu penses que tu sais, déjà, c'est pas terrible. Moi, je préfère toujours les gens qui savent, qui ne savent pas.
Je sais plus comment s'appelle ce biais cognitif.
Bah, tu me déçois.
Dunning-Kruger, je crois.
Ok.
Je crois que c'est le biais de Dunning-Kruger, c'est moins tu sais, plus tu penses que tu sais. Et inversement.
Oui, parce que quand tu commences à apprendre, tu te dis, mais en fait, je sais rien par rapport à l'immensité.
Tout ce que je sais, c'est que je ne sais rien.
Bah oui, parce que tu te rends compte que tu n'auras pas le temps de savoir grand-chose. Tu vois.
T'en avais parlé dans un autre podcast où tu considères que jusqu'à tes 20 ans, t'es là, tu vivotes et puis c'est des balbutiements, quoi. Et après, t'as à peu près trois parties de ta vie à vivre. Si tu veux considérer que tu as à chaque fois 20 ans...
Je vais me citer moi-même.
Vas-y.
C'est plus juste. Je considère que le...
Je sentais que ça partait très mal.
Ouais,
J'adore provoquer ça chez Manuel.
Je considère que le monde est segmenté en trois parties. Ce que tu sais, ce que tu sais pas, et ce que tu ne sais pas que tu sais pas.
Non, je crois que ce que tu as dit, c'est vraiment ce que Romain a cité. Hein.
Alors moi, c'était deux choses complètement différentes.
Il me semble que c'était plus juste.
Et en fait, ces trois parties-là, si tu te souviens de ça, ça va mieux.
Ok.
J'aimais bien le passage qui cite Bill Gates et qui dit « Si tu penses que ton professeur est méchant et dur, attends de voir un patron. » Il disait « Peu importe le nombre de livres que vous lisez, peu importe le nombre de tests que vous passez, rien de ce que vous avez appris à l'université ou au collège ne peut vous préparer correctement à la vie dans le monde réel. Les emplois et les patrons de la vie réelle n'impliquent pas seulement que vous étudiez et qu'ils vous enseignent. Il s'agit d'un travail réel que vous devez être capable d'effectuer, faute de quoi vous serez licencié ou remplacé. » Il faut être à l'aise avec ça. Et ça, c'est pas l'école qui t'apprend la vie, quoi.
C'est vrai. J'ai l'impression qu'il y a une espèce de recrudescence de l'alternance, du coup. J'ai vu pas mal de gens parler d'alternance, justement, parce que leur temps est divisé en deux, à la fois les études où ils ont bien conscience qu'ils apprennent pas tant de choses que ça sur la vie, et la moitié du temps, une entreprise dans laquelle t'apprends vraiment un truc.
Oui, mais le problème, c'est qu'on t'envoie aussi beaucoup de gens qui ne sont pas prêts à apprendre.
Oui.
Version entreprise.
Ah.
Ouais. Donc pour moi, c'est l'école qui outsource une partie de ce qu'ils n'arrivent pas à faire, c'est-à-dire foutre des claques aux étudiants pour leur dire non, en fait. L'entreprise, c'est pas une grande démocratie, on va pas voter pour les décisions et ton avis, on s'en cogne.
Il y a un délégué.
Tu vois ?
Le petit papier, on le met où ?
Ça va pas marcher comme ça, en fait. Et c'est un problème parce que j'aimerais bien que l'école les prépare à ça. Je suis pour l'alternance, c'est pas la question. Je pense qu'un apprentissage qui mixe la théorie et la pratique, c'est très très bien. Les Allemands le savent depuis très longtemps, ils sont bien meilleurs que nous sur ces questions-là, depuis beaucoup plus longtemps que nous. Mais nous, on nous envoie vraiment des bébés, quoi. C'est les, les gens arrivent dans un état de candeur et d'innocence
Alors,
qui flirte quand même avec la béatitude, pour pas dire la bêtise. Hein.
Je vais citer juste un exemple pour que vous l'ayez bien en tête. Hein. Une personne adulte qui est sortie de ses études, etc., était venue chez Influx, premier jour, et me demandait à quelle heure est-ce qu'il pouvait prendre son goûter. C'est réel. C'est c'est-à-dire que c'était le premier jour.
Pourquoi on n'a jamais entendu parler de cette
histoire ? Parce que pour moi, je me suis dit que c'est tellement ridicule que je n'allais pas lui dire. Je lui ai dit, j'en ai strictement rien à foutre. Tant que tu ne fous pas tes miettes par terre et que tu ne parles pas la bouche pleine, j'en ai rien à foutre.
On est au stade où tu apprends aux gars à manger proprement.
Non, mais c'est ouf, je te jure. On m'a dit, oui, mais à quelle heure je peux prendre mon goûter ? Genre, est-ce que je peux faire une pause l'après-midi ? Ça sous-entendait ça, mais il fallait que je cherche pour comprendre, en fait. Et le mec, en fait, me posait la question de, est-ce qu'il peut descendre fumer une clope ? Est-ce qu'il peut... Et il avait son rituel, pour te dire, il sort d'école, etc. 16h, il prenait 15 minutes et il allait s'acheter un goûter, quoi. Et là, je me suis dit, mais putain, c'est pas le problème d'aller faire un goûter, mais je me suis dit, putain, on est loin de vouloir bosser et d'en chier, mon gars, quoi.
Pour sa défense... Toutes les entreprises fonctionnent pas comme Influx. Et il y a peut-être des entreprises dans lesquelles
il a développé ses
habitudes et il faut que tu demandes à chaque fois que tu prends un quart d'heure de pause pour aller chercher ton goûter.
C'est vrai, c'est vrai.
Ça peut être dû à ça. J'en profite juste pour rappeler, comme Manuel, tu disais que tu étais pour l'alternance. N'hésitez pas à envoyer vos demandes d'alternance par mail à Manuel.
Oui, bah bien sûr. Mon email, c'est leo@duff.fr.
Ah bon ?
Oui.
Et d'ailleurs, l'heure du goûter, je profite pour nos prochains alternants, c'est de 16h à 16h15.
Tout à fait.
Bon, au début du podcast, vous commenciez à parler de geek et du côté geek de Bill Gates. Alors, il n'a pas pu.
Geek, évidemment.
Eh ben, il se défend lui-même. Il dit « Soyez gentil avec les intellos. Il y a de fortes chances pour que vous finissiez par travailler pour l'un d'entre eux. »
Ça, voilà. C'est très bien.
Alors, du coup, quand j'ai lu ça, je me suis dit « Réfléchis. » Eh ben, en fait, non. Tous les intellos de ma classe que j'ai connus, ils font tous un boulot très pépère. Alors oui, hein, ils sont bien placés, ils sont cadres, ils ont un beau CDI, ils ont pu faire le prêt, avoir la maison de campagne et tout.
De ta classe aussi.
Peut-être, mais...
C'était un Monaco, hein, je me rappelle.
Voilà.
Mais j'ai pas eu d'intello qui a révolutionné, tu vois, une start-up, quoi.
Il n'y a aucun monégasque qui a révolutionné le monde.
Mais attends, je vais même... Non, mais je pose là...
GMK,
il n'y a personne.
Il y a un économiste suisse qu'on voit souvent sur TikTok ou Insta, qui parle souvent d'ailleurs de la politique de la France. Enfin, je ne sais pas s'il est suisse ou français, mais en tout cas, il est en Suisse. Bon, je vous laisse imaginer pourquoi.
Chocolat.
Et il dit, il fait des confs dans beaucoup de très grandes écoles et il raconte comment il démarre ses confs, etc. Et il dit, mais je suis sûr qu'il n'y a aucun entrepreneur dans cet amphi. Parce que si vous étiez entrepreneur, vous seriez pas là.
Ah, c'est horrible. C'est tellement vrai, mais c'est horrible.
Parce que le but d'un entrepreneur n'est pas d'être conforme.
Oh putain.
Or, faire des études, c'est être conforme. C'est comme une vache à qui tu mets une étiquette à l'oreille, en fait. Donc, c'est la conformité par rapport à une norme, un niveau. C'est ça ce que tu achètes dans un diplôme. On te certifie que c'est la belle viande rouge.
À quel point est-ce que c'est vrai, ça ?
Bah, c'est très vrai. Après, c'est là, ce qui fait la différence, c'est la personnalité.
Mais est-ce que vraiment, dans les entrepreneurs qui ont connu de grands succès, est-ce que vraiment, ils n'ont pas fait d'études ?
Ouais, c'était ma question, en fait, avant ça.
Alors, c'est un raisonnement étrange. Je dis que beaucoup s'affranchissent des normes, ça ne veut pas dire qu'ils n'ont pas fait d'études. Peut-être qu'ils ont fait des études, certains d'entre eux, mais c'est moins des entrepreneurs que des patrons.
Oui, c'est vrai, en fait... Okay. C'est vrai. C'est ceux qui ont fait le plus d'études, ceux que j'ai pu rencontrer dans la série 20 minutes avec, c'est des CEO, des dirigeants, etc. Mais c'est pas les mecs qui ont créé from scratch, quoi.
C'est des gens qui gèrent.
C'est vrai.
Tu regardes Mark Zuckerberg, il a créé Facebook.
Ouais.
Il est toujours à sa tête aujourd'hui. C'est un gars qui a fait des études.
Qui les a pas terminées.
Non, parce qu'il a eu du succès pendant ses études. Voilà. Mais il n'empêche qu'il
n'a pas hésité à sacrifier ses études pour son projet.
C'est évident, mais il n'empêche.
C'est évident.
Alors, attends,
pas pour tout le monde.
Ouais, parce que vu les prêts aux US, c'est pas évident d'arrêter ses études. Hein, quand tu sais que, à mon avis, l'école dans laquelle il était, à mon avis, c'était 200-300 000 balles l'année.
Harvard.
Voilà. Donc, t'es plutôt là.
Ce que je veux dire, c'est qu'il aurait pu être dans cet amphi. Donc, c'est une belle phrase. Maintenant, à quel point c'est vrai, je suis pas certain.
Ouais, et il passait moins de temps dans l'amphi que dans sa chambre, à la bibliothèque, connecté au web, etc.
Mais on peut trouver une part de vérité, mais je pense qu'il faut pas non plus prétendre que les entrepreneurs s'affranchissent complètement des études.
Non, pas du tout, c'est pas ce que je dis. Ce que je dis, c'est que c'est pour ça que j'explique derrière en disant que c'est pas un handicap d'avoir fait des études pour être entrepreneur, c'est pas ça. Ce qui est important, c'est que dans le modèle entrepreneurial, si tu veux créer quelque chose de nouveau, que ça soit un produit ou un service, etc., tu n'es pas animé par l'idée d'être conforme à quelque chose. Ouais. Tu es animé par l'idée de bouleverser l'ordre établi pour arriver avec quelque chose de nouveau. Et il faut avoir cette force et cette énergie que d'imposer quelque chose de nouveau. Et de ne pas avoir peur de bouleverser la bien-pensance et l'idée la plus communément admise au moment où tu crées. Je rappelais dans une de mes newsletters récentes que tous les ans, j'envoie mes vœux à ce banquier. Je vais avoir la grâce de ne pas citer le réseau bancaire qui m'avait dit quand je voulais créer la boîte, que Internet ne marcherait jamais et qu'il valait mieux ou que je reprenne mes études ou que je fasse du Minitel Rose.
Tu lui envoies vraiment tes vœux tous les ans ?
Tous les ans.
Il avait dit ça, c'était génial.
Pitié, dis-moi qu'il a déjà répondu.
Je sais qu'il les reçoit. Je ne sais pas ce qu'il en fait, mais je connais des gens dans son environnement qui me disent qu'il les reçoit et je crois deviner sa date de retraite, je lui réserve une surprise.
Et je sais qu'on l'a dit plusieurs fois, mais encore une fois, tu as des parcours de personnes qui ont fait de grandes études et qui sont embauchées dans des boîtes qui ont été créées par des entrepreneurs qui, eux, n'ont pas fait de grandes études et tout le monde doit être très à l'aise avec ça, quoi.
Et
le Graal, c'est pas d'être entrepreneur, pour être bien clair. Je sais qu'on le répète, mais j'aime bien le redire quand même à chaque...
Et je répète souvent cet exemple de Google, mais Eric Schmidt n'est pas le fondateur de Google, et les fondateurs de Google ont eu besoin d'Eric Schmidt pour gérer la croissance de Google. Steve Jobs n'a peut-être pas fait d'études, ou très peu.
Un petit peu quand même, il était dans une grande école. Stanford.
Oui, d'accord, mais il divaguait pieds nus.
Il était plus au cours de calligraphie, mais il était quand même dans une grande école.
Bon, c'était Léo Duff, quoi.
Mes grandes écoles, moi, l'historique, il est...
Tim Cook est beaucoup plus conforme.
Ah oui.
Ah oui, ça c'est sûr.
Il est fort.
Voilà. Donc, dans la vie d'une boîte, il y a des moments pour créer, bouleverser l'ordre établi. Il y a des moments pour gérer. Et je pense que les entrepreneurs ont aussi pleinement conscience de ce qui leur manque. Et ils savent, pour les meilleurs d'entre eux, très bien recruter ce qui leur manque, ce qu'ils n'ont pas.
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f***? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Pour ça, il donnait déjà quelques exemples. Il disait que la vie réelle, pour ceux qui regardent un peu trop la télé, bah, c'est pas dans la télé. Donc, si déjà tu passes la moitié de ton temps devant la télé... t'es peut-être pas forcément fait pour t'élever beaucoup dans la société.
Et
quoi.
Ça marche aussi avec Instagram.
Ça marche aussi avec Instagram, surtout avec les réseaux sociaux. Lui, bon, c'est Bill Gates, donc je pense qu'il sait même pas que la fonctionnalité canal sur Instagram existe, tu vois. Mais lui, je pense qu'il y a la télé, la radio et les livres. Mais il passait, je l'avais déjà dit, plus
mais
de...
encore la télé, à mon avis, pas beaucoup. Hein.
Il passe plus de 6 heures par jour à lire, déjà. Sa plus grande difficulté, il le disait dans une interview que j'avais
lue sur
ses investissements, c'était de justement pas toucher à ses investissements. Il disait, en fait, moi, ce que j'aime faire, c'est m'intéresser aux boîtes, investir et tout, sauf que plus je le fais, plus je perds. Moins je touche, plus je reste patient, plus le fait d'attendre m'apporte plus de dividendes, plus de réussite, parce qu'une boîte, cette année, elle marche moins bien, l'année prochaine, elle marche mieux, etc. Donc, ma plus grande difficulté, c'est de ne surtout rien toucher, et donc, pour ça, il faut que je m'occupe. Donc, je vais dans la campagne, je lis... Je discute. Voilà. Il passe 2 heures au téléphone par jour et 6 heures à lire. Tu vois, c'est à peu près ça quoi. Il passe son temps quoi.
Moi c'est pareil. J'ai mis mon abonnement à la FDJ pour faire l'euro million et j'y touche pas.
Très bien.
Et j'attends.
Celle-ci elle va te plaire, Manuel. La vie n'est pas juste. Voilà, tu me l'as souvent répété, mais la vie n'est pas juste et c'est ainsi. C'est un test, un jeu, un risque. Si vous tombez et ne prenez pas la peine de vous relever, vous ne méritez pas de réussir. Les gagnants savent que la vie n'est pas juste et ils continueront à se relever jusqu'à ce qu'ils réussissent.
Bah oui.
Mais c'est pas. Enfin, tu
mais
l'entends
souvent.
C'est un
truc très français. Hein.
Ouais.
Nous, on préfère un modèle, nous les Français, on préfère un modèle juste et équitable plutôt qu'un modèle qui crée des leaders et qui laisse d'autres personnes sur le côté.
C'est dans notre slogan.
Donc, on n'aime pas ça. Bon, y a quand même des... Enfin, on ne va pas ouvrir ce débat-là maintenant, mais il y a des contradictions dans notre devise.
Oui.
C'était un contenu avec Xavier Niel récemment que j'écoutais qui disait le plus difficile, c'est de persévérer et de juste ne jamais s'arrêter de faire, en fait. Et puis un jour, peut-être que ça fonctionnera.
Je suis obligé de le dire, hein, je suis désolé, je vais revenir là-dessus, mais liberté, égalité, fraternité. Donc droite, gauche, rêve. Voilà. C'est grosso modo, c'est ça le slogan de la France.
Oui, c'est vrai.
Et au final, on récolte quoi ? La progression d'un pingouin qui se dodeline de gauche à droite en hésitant et souvent en glissant. Revenons à Xavier Niel.
Ouais, parce que moi j'habite dans un pays qui fait la taille d'une boîte de nuit, donc voilà.
Donc c'est pas un pays, quoi. T'habites dans un village Minecraft.
Non, c'était Xavier Niel qui disait dans une interview là récemment que le plus difficile c'était de persévérer sans jamais s'arrêter et que c'était la qualité d'un entrepreneur en fait. Un entrepreneur, c'est pas quelqu'un qui réussit mieux qu'un autre ou autre, c'est juste quelqu'un qui a essayé plus de fois que les autres. Et qui ne s'est jamais arrêté.
Bah, c'est statistique. Ouais, c'est juste, c'est Léo avec l'euro million.
Oui, c'est vrai.
Tu penses pouvoir gagner, Léo ?
Mais alors, c'est pas que je pense. Je sais que je vais gagner à l'euro million.
D'où mon pacte avec Léo.
J'adore.
Je le sais. Non, mais
vous avez vraiment un pacte ? Allez-y.
Non. Il y a un pacte qui n'existe que dans la tête de Manuel.
C'est faux.
Qui consiste à dire que quand je vais gagner à l'euro million,
tu connais ma prudence.
J'ai pas encore la date. Je vais lui donner un pourcentage.
Et quand je vais gagner,
il va
toucher un pourcentage.
Voilà, c'est là qu'il y a un bug en fait dans l'équation, c'est que Manuel ne joue pas.
J'adore.
Et il est persuadé qu'on a fait ce pacte qui n'existe pas.
Non, je suis persuadé que j'ai pas besoin de jouer plusieurs fois pour gagner.
Alors, écoute, Manuel, je propose un truc. Je veux bien te donner un pourcentage quand je gagnerai l'euro million, si tu me donnes le même pourcentage de ta fortune actuelle aujourd'hui.
Non.
Alors ce pacte qui n'existe pas d'ailleurs est annulé.
Bon ben pour Léo, créer une entreprise c'est un peu comme jouer à des jeux d'argent. On n'est pas toujours sûr de gagner ou pas. Toutefois, la seule différence c'est que vous devez élaborer des stratégies et planifier suffisamment bien pour assurer le succès de votre entreprise. Cette citation de Bill Gates ne s'applique pas seulement aux entrepreneurs mais aussi à la vie en général. Le monde est plein d'incertitudes, la vie n'a pas de règles et vous devez sacrifier certaines choses pour arriver à votre destination.
Mais ça je trouve que c'est rassurant. Parce que ça annihile peut-être un petit peu le perfectionnisme que tu peux avoir avant de lancer un projet. C'est qu'en fait, t'auras beau le travailler autant que tu veux, autant de temps, avoir toutes les certitudes que tu veux dans ta tête, t'es pas sûr que ça marche.
On a une phase,
qu'il ne faut pas passer énormément de temps à le préparer et beaucoup plus de temps à l'exécuter.
Ouais.
Et à le peaufiner avec le temps. Quoi.
Alors oui, prépare-le un minimum quand même. Tu vas, tu fais pas pour citer ton ami du moment, Inox. tu vas pas faire l'Everest en short et en tongs.
Non, ça c'est sûr. D'ailleurs, c'est pas comme ça qu'il le fait.
Donc prépare-toi un minimum, mais entraîne-toi, exécute. Voilà, fais des choses. La quantité d'entrepreneurs qui passent leur temps à réfléchir et à ne rien faire est quand même astronomique.
J'avais adoré, on a passé un moment cet été avec Léo et vous le savez, Léo et moi, on est très très différents. Et pour autant, dans une conversation qu'on a eue avec un jeune qui voulait se lancer dans sa passion et tout ça, Léo et moi étions vraiment super frustrés parce qu'on sentait que la personne était presque prête pour démarrer ce qu'elle avait envie de faire, etc. Mmh. Et ce qui lui manquait, bah, c'était juste de faire, en fait. C'est juste de fermer sa gueule, de prendre son putain de portable et de faire. Et c'était super frustrant. Et
Alex ?
Ouais.
Ah, ouais, ouais.
C'était trop frustrant.
Eh ben, on pense à lui. Je pense qu'il réfléchit toujours à faire, mais il a toujours pas fait.
Bah, parce qu'en fait...
Mais tu vois, pourtant, Léo et moi, on est très différents. Léo est quelqu'un de plus réfléchi, etc. Donc, moi, je suis plus brutal. Et pour autant, on avait presque tous les deux le même discours à la fin. Tu vois, à la fin, c'était fait, quoi.
Mais parce qu'au bout d'un moment, quand t'es passé par là, tu sais que le seul conseil qui s'applique, c'est ferme-la et fais. Arrête de trouver des excuses, parce que la vie est difficile avec tout le monde. Tout le monde a du mal pour faire les choses qui lui vont durer, etc. Ça marche avec tout le monde, c'est une loi absolument universelle. Ferme-la et fais ce que tu as envie de faire. Ou alors, n'en parle même pas aux gens parce que ça n'existe pas. Tu peux en rêver la nuit si tu veux, mais ça restera un rêve. Du moment que tu feras rien, ça restera dans ta tête. Donc arrête de faire chier les gens avec ça, ou alors fais-le.
Mais ça, c'est mes moments préférés. Alors, j'y vais plus depuis très longtemps, mais je les suis d'ailleurs jamais vraiment allé beaucoup. Mais c'est tous les mecs qui vont dans les soirées d'entrepreneurs. qui parlent de leur de leur boîte qui n'existe pas.
Ah non, jamais ça.
Donc en fait, ils ont l'idée d'une boîte, mais leur boîte n'existe pas. Mais ils te la pitchent comme si elle existait.
Là, je suis sur un truc.
Voilà.
C'est horrible.
Ça arrive fort.
Ouais.
Vous n'êtes pas prêt.
Et vous n'êtes pas prêt.
Mais le problème de ça, c'est que le simple fait de parler à quelqu'un d'un succès qui n'existe pas encore te confère le même sentiment d'accomplissement. Donc tu en parles à quelqu'un, tu lui dis « Ah, là, je vais arrêter de fumer.
Ouais. »
Tu as l'impression que tu viens d'arriver à arrêter de fumer parce que tu peux le raconter à des gens, parce que les gens te disent « Ah, c'est super bien, etc. » Du coup, tu es récompensé, tu as la récompense sans avoir la difficulté de l'action.
Je comprends et je suis d'accord avec ce que tu dis. J'aimerais simplement apporter une nuance, surtout par rapport à moi, ma façon d'être. Tu vois, Léo, c'est qu'il y a des choses que j'entreprends. Je te donne un exemple avec la série 20 minutes avec, tu vois. Il y a déjà des beaux contenus qu'on a sortis, des belles interviews et tout. Et il y a des interviews qui ne sont pas encore officialisées, où je n'ai pas encore de go, etc. Tu vois, de principe des intervenants. Et pour autant, parfois, ça me motive que de dire... j'ai cherché à contacter telle personne, là je vais là-bas pour essayer d'avoir telle personne ou dans telle industrie. En fait, c'est pas encore fait, tu vois, mais ça me permet d'aller un peu de l'avant et de me dire, tu vois, on lâche pas, on va toujours aller plus loin,
oui,
quoi.
Mais tu le fais parce que t'es déjà en place.
Ouais, ok, d'accord.
Le problème, ce serait que tu dises, là je vais essayer d'avoir Bill Gates et que tu lui envoies jamais de mail.
Ah oui, non, bah alors.
C'est ce que font des gens absolument tous les jours. C'est, ah oui, non, mais je vais bientôt travailler sur mon album de rap. T'as fait quoi? Bah là, j'ai réfléchi pour l'instant à travailler sur mon album de rap.
Bah, tu sais, la motivation que tu avais quand tu faisais ton sport tous les jours et que tu mettais une story par jour,
ouais.
Bah, c'est un peu ce que j'essaie de reproduire dans mon canal. Quand je dis aux gens, bon, bah là, j'ai envoyé un message. Alors pour l'instant, ça pue du cul, j'ai pas de retour et tout. Mais en fait, tu te dis, bon, moi, je l'ai fait, j'ai une trace. Quoi, ouais, tu vois. Ça, c'est pas mal, je trouve. Bon, l'autre truc à accepter, et je pense que Bill Gates le dit bien, mais c'est pas que lui, puisque Bill Gates et Paul Allen, du coup, qui ont créé Microsoft sur des bases précaires, mais à force de patience et de travail, ils ont réussi à surmonter des difficultés qu'ils ont rencontrées. Ils ont compris un truc, c'est que peu importe ce qui se passait, il n'y avait pas de raccourci vers le succès. Il faut du temps pour construire un empire et toute une vie de sacrifice pour maintenir la cohérence. Alors, à une ère où tu ouvres TikTok et tu fais des millions de vues si ton contenu est pertinent, est-ce que pour vous, il n'y a toujours pas de raccourci vers le succès ?
Si, il y a du raccourci vers le succès à court terme.
Voilà, ok.
Tu peux devenir un TikToker du jour au lendemain, mais par contre, tu peux aussi devenir un TikToker qui n'a plus aucun succès du jour au lendemain. Un succès court terme est souvent un échec à court terme.
J'ai vu la dernière, et du coup, la nouvelle vidéo de McFly et Carlito, quand ils parlent de relancer leur chaîne, de moins se soucier du nombre de vues, etc. Et quand tu les écoutes, tu te dis, ah bah oui, bah ils ont raison et tout, mais en fait, tu peux faire ça. Une fois que tu as eu leur succès, et le background qui va avec et l'histoire qui va avec, c'est parce que t'as fait des millions de vues pendant très longtemps, parce que t'as été en place, parce qu'il y a un trust en qui vous êtes. Aujourd'hui, tu peux te permettre de faire quelque chose de plus rationnel, quelque chose qui va plus toucher le cœur des gens, l'émotion, sans se soucier juste du côté bling bling du nombre de millions de vues que tu fais, quoi.
Ouais, mais tu regardes McFly et Carlito, ils ont mis énormément d'années avant de marcher.
C'est énorme, plus de 10 ans.
Squeezie, c'est la même chose. Quasiment tous les créateurs, en fait, il y a très peu de créateurs qui sont devenus connus du jour au lendemain. Enfin, qui ont commencé et le lendemain, ils étaient connus. Et en plus de ça, souvent, les gens qui font ça depuis longtemps, bah, ce sont les youtubeurs qui durent. Et c'est comme ça dans toutes les industries, mais c'est logique.
Moi, ça me fait penser au grand chef. C'est comme... alors, c'est une de mes passions. J'aime bien les gens qui... J'aime bien les artisans, les gens qui font des choses. Bah, c'est comme quand tu vas faire à manger ou quand tu vas cuisiner avec Alain Ducasse. Dieu, bah, faire une omelette, c'est pas dur. Bah oui, super, mais ton omelette, elle ressemble pas à la mienne, en fait, si tu veux. Parce que déjà, dans sa cuisine, il y a des trucs que toi, t'as pas, en fait, tu vois. Ou tu prépares un truc l'après-midi avec Cédric Grolet. Tu dis, ah bah tiens, faire une tarte aux fraises, c'est pas dur. Ouais, d'accord, mais c'est pas pareil.
C'est vrai.
Pourquoi ? Parce qu'il a, pendant des années, des années, des années, il a essayé, il a changé des trucs, des tout petits détails, etc. Et si tu fais pas, si tu n'exécutes pas, tous ces éléments qui sont des espèces de micro-ajustements au-dessus du niveau de base respectable, du niveau du dessus qui est le niveau d'excellence, après le niveau d'excellence, il y a la pratique qui te fait passer dans une espèce d'autre dimension, qui fait que tu deviens ou Alain Ducasse, ou Cédric Grolet, ou cette catégorie de gens qui ont passé ces classes de base jusqu'à atteindre l'excellence et au-dessus de laquelle le talent finit par faire la différence. Mais les gens qui te disent « ouais, j'ai un talent inné, etc. » Oui, mais t'as un talent inné qui s'exprime en dessous du niveau de base. Des gens ne le voient pas, en fait.
Et pour autant, Bill Gates disait aussi que beaucoup de gens se sentent frustrés parce qu'ils ne sont pas aussi intelligents, riches ou talentueux, justement, que la personne qu'ils admirent. Vous pouvez être frustré parce que vous ne réussissez pas aussi bien que Bill Gates, mais vous devez surtout vous rendre à l'évidence. Nous sommes tous nés différemment. Chaque personne a ses propres capacités et il faut accepter, pour réussir, ces capacités-là. Dès lors que vous commencerez à apprécier qui vous êtes, vous serez plus confiant pour faire les choses à votre manière. Dès lors que vous allez commencer à vouloir vous comparer à quelqu'un, c'est comme si vous vous insultiez, selon Bill Gates, encore une fois.
Qui se cite lui-même, donc.
Oui.
J'ai beaucoup de mal à me dire que tu puisses te dire « j'ai envie d'être quelqu'un d'autre ». Je comprends pas le concept.
Toi, c'est pas du tout ta psychologie. Moi, ça l'était beaucoup au début, par exemple. Moi, je sais
je comprends que t'aies du mal à te le dire, mais il y a beaucoup de gens qui sont comme ça, Léon.
Ils se disent « mais je vais pas faire ça, parce que de toute façon, il y a déjà lui, par exemple ».
Beaucoup de gens qui aimeraient être quelqu'un qu'ils aiment ou qu'ils admirent, mais qui ne tiennent pas du tout compte de qui ils sont.
Parce que pour moi,
c'est une espèce de déni de réalité.
C'est l'expression d'un mal-être.
Et j'aimerais qu'on parle deux secondes d'une vidéo qui tourne en ce moment sur les réseaux sociaux de Laurent Alexandre.
Oui.
Qui dit qu'il y a un premier déni de réalité, c'est que l'intelligence est l'héritage d'un facteur génétique pour grande partie, et on le refuse. On refuse cette réalité.
Majoritaire.
Il y a plein de gens qui ne sont pas d'accord avec ça. Lui défend la thèse que la majorité de ton intelligence vient de ton patrimoine génétique. Je ne dis pas que je suis d'accord avec ça.
Ouais.
Je n'ai pas assez de culture scientifique en la matière pour exprimer un avis. Mais cette vidéo tourne, il défend ce point de vue et il argumente. Je pense qu'il y a d'autres personnes qui seraient capables de le contredire et qui seraient intéressantes d'avoir un débat sur cette question. Mais le fait même de dire que la ligne de départ n'est pas au même niveau pour tout le monde, oublions la génétique deux secondes, ton facteur social, l'environnement dans lequel tu es, ce dans quoi tu es éduqué, etc., etc. Tout ça, on sait tous que c'est une réalité.
Bien sûr.
Il y a des parcours plus difficiles que d'autres, il y a des gens plus méritants que d'autres parce qu'ils s'en sont sortis en partant de plus loin. C'est une réalité. J'ai l'impression que dans en France, dans notre espèce de quête d'égalité à tout prix, on en arrive à presque nier cela, nier le fait que tout le monde ne part pas de la même ligne de départ.
Alors que c'est évident, parce que sans même rentrer dans la génétique, je suis pas hyper convaincu par l'argument.
Moi non plus.
Simple fait que t'aies des parents qui ont peut-être fait plus d'études, qui ont peut-être plus de temps pour t'éduquer, qui ont peut-être plus de culture, tu pars avec un avantage évident. Donc sans même aller vers la génétique, au-delà même de ton environnement social, dans quelle école tu es, etc., le simple fait que tu puisses avoir des parents différents d'un autre enfant te fait partir avec un avantage considérable. Ça veut pas dire que tu deviendras quelqu'un, parce que parfois les têtes viennent d'environnements inattendus, mais ça te fait quand même partir avec un avantage.
En tout cas, ce qu'on peut dire, c'est que tout le monde a son background, son histoire, avec ses avantages et ses inconvénients. Par contre, ce qui est sûr, c'est que si tu essayes d'être ce que tu n'es pas fondamentalement, ça va être beaucoup plus difficile plutôt que d'insister sur tes qualités, sur ce que tu sais bien faire, etc. Souvent, d'ailleurs, les gens renoncent quand ils ne voient pas d'avenir à leurs qualités. Quand on les a quand on les a serinés avec il n'y a pas d'avenir là-dedans. C'est ce qu'on dit souvent aux artistes. Tu ne vas pas être peintre, tu ne vas pas être chanteur, il n'y a pas d'avenir là-dedans, ce n'est pas des vrais métiers. C'est ce que disent beaucoup de l'environnement des artistes, en fait.
Bien sûr.
Mais c'est quoi le projet derrière le fait de devenir Bill Gates 2 ?
Le retour ?
Windows 2 ?
Je pense qu'il n'y en a pas, justement. C'est ça le problème. Le problème, il commence par là.
C'est nul.
C'est clair. Moi, j'aimais bien quand il parlait du fait d'être humble. Il disait que si on se laisse penser qu'on est intouchable, c'est pas pour lui ce qu'on appelle de la réussite. La vie est une roue, elle est imprévisible. Vous pouvez être au sommet aujourd'hui et en bas de l'échelle le lendemain. Il est préférable de rester humble à tout moment et de ne jamais oublier ce qui vous a permis d'atteindre votre but. Il disait « Le succès est un mauvais professeur. Il séduit les gens intelligents en leur faisant croire qu'ils ne peuvent pas perdre. » Léo, t'en dis quoi, toi qui es si humble ?
Oui, c'est vrai, c'est pour ça que je suis resté humble en attendant de gagner à l'euro million. Par contre, le jour où je gagne l'euro million, plus rien à foutre. La plèbe, là, je ne me parlais même plus.
Par contre, vraiment, pour prendre un exemple perso, je sais que au début, quand j'avais 18, 20 ans et tout, tu fais plein de trucs, t'es fier de ce que tu fais, t'as envie de l'hurler, t'as envie de toujours raconter que t'en sais plus que l'autre et tout ça. Bon, Manuel m'a bien tapé sur la gueule au fur et à mesure, mais t'as tellement plus à gagner en étant humble qu'en voulant raconter des trucs, etc. Déjà, c'est ce qui m'a appris à juste ferme ta gueule et pose des questions. Mmh. Déjà, tu ressors de la conversation, tu sais plus de choses que quand t'es rentré, alors que quand tu fais que parler de toi, ben, tu le savais déjà.
Et moi, je martèle ce truc parce que y a quand même beaucoup d'entrepreneurs qui racontent de la merde, en fait.
Ah ouais, ça, c'est
sûr. Il y en a quand même beaucoup, beaucoup qui c'est cette espèce de petit mensonge accepté, en fait, tu vois. Ils te racontent des trucs qui, dès que tu grattes un petit peu, tu te rends compte que tout ça, c'est faux, en fait.
Souviens-toi,
ça tient pas debout vraiment, en fait.
Quand on s'est rencontrés, c'était ça, hein. J'avais 18 ans, je te racontais des trucs, je me disais, attends, ça veut dire que ça c'est vrai chiffre.
Ouais, tu le faisais encore il y a 2 ans. Hein.
Les millions sont des milliers. Enfin, tu vois, il y a des ajustements quand même nécessaires, en fait. Et moi, c'est un critère rédhibitoire. Je n'aime pas les personnalités qui ne sont pas humbles. Ce qui ne veut pas dire...
Excuse-toi d'être là, quoi.
Non, pas du tout.
Ça n'a rien à voir.
C'est ce que j'allais dire.
Ça n'a aucun rapport. Tu as le droit d'avoir des opinions dès lors que tu sais les défendre. Tu as le droit d'argumenter, et même avec toute l'énergie que tu peux mettre dans une argumentation. Mais... te glorifier de qui tu es, de ce que tu fais, de tes résultats, etc. Je trouve que ça n'a aucun intérêt. C'est une espèce de perte de temps totale.
Bah c'est surtout que si tu y arrives vraiment, les autres en parleront pour toi, quoi, en fait. Enfin, le marché dans lequel tu es parlera à ta place.
Voilà. Bon, c'est exactement pour ça, tiens, je vais passer un message, que ne m'invitez pas dans vos podcasts.
Ah ouais ?
Parce que ça ne m'intéresse pas d'aller parler de ce que j'ai fait par le passé.
On peut te virer de Speakeasy, du coup ?
Ah non, parce que ça, c'est notre podcast.
Ah, merde.
Tout vient. Mais non, je reçois des messages de tonnes de gens qui lancent des podcasts ou qui ont des podcasts et qui voudraient que j'aille parler de ce que j'ai fait par le passé. Non, ça n'a pas d'intérêt. Vous inviterez les gens qui sont encore vivants après ma mort. Ils vous parleront de tout ça, mais je ne vais pas faire ça.
Invitez Romain.
Je ne vais pas faire ça maintenant.
En revanche, n'oubliez pas vos mails pour demande d'alternance à Manuel.
C'est ça.
Voilà, les gars.
C'est tout.
Voilà.
C'est ça ta conclusion ?
Bah ouais, c'est ça ma conclusion.
Bah trop bien.
Bah on est en roue libre.
Et bah la bise alors.
Salut.
Bye bye.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.